Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'ils soient visibles en VOD ou en streaming. J'appartiens à une génération pour laquelle la Seconde Guerre mondiale n'est pas juste un tournant de l'histoire de l'humanité, mais aussi une réalité pour une partie de ma famille. Malgré tout, c'est étonnant, je trouve, de voir comment, si on apprend très tôt les dates importantes, on met un certain temps à connaître le déroulé exact des événements majeurs qui se sont joués, entre autres sur notre territoire. Mon intérêt pour cette période a commencé assez jeune, en cours d'histoire-géographie, où j'ai découvert l'occupation, la résistance, et où tout était, dans mon souvenir du moins, plutôt manichéen et pas toujours très subtil. C'est le cinéma qui, régulièrement, vient compléter ma culture en la matière, en apportant souvent les nuances dont j'ai pu manquer. La nuance, voilà quelque chose dont on manque encore cruellement aujourd'hui. Non seulement dans notre rapport à l'histoire avec un grand H, mais aussi bien sûr dans celui que nous entretenons avec notre actualité. Comment nuancer une période si sombre? Comment demander aux victimes et à leurs descendants de ne pas tout jeter dans le même panier? Mes propres grands-parents ne voyaient pas d'un bon œil le rapprochement France-Allemagne à l'heure de l'Europe. Pourtant, je ne suis pas juif et personne dans ma famille ne s'est fait déporter. C'est bien pour ça que nous avons le cinéma. Les films dont je vais vous parler aujourd'hui m'ont apporté des réponses, mais aussi un peu de réconfort en me rappelant que les héros sont dans les bouquins et que dans la vie, il n'y a que nos choix, leurs conséquences et le cours de l'histoire. À la recherche de nuances, il faut souvent aller chercher du côté des films qui déplaisent, certainement par leur manque de complaisance. La Combe Lucien semblait inévitable, mais il ne fait pourtant pas partie de ma sélection. Je ne voulais pas d'humour, pas cette fois, et donc je n'ai pas non plus inclus les grands classiques de Claude Autant-Lara, La Traversée de Paris, et de Gérard Oury, La Grande Vadrouille. De toute façon, est-ce que vous aviez réellement besoin de moi pour découvrir ces monuments? J'aurais pu revenir sur Le Train de John Frankenheimer, un réalisateur dont décidément je ne me lasse pas de vous parler, mais je l'avais déjà conseillé dans l'épisode 9 de la première saison. Si vous ne l'avez pas vu, ruez-vous dessus. Toujours en relation avec les œuvres d'art, il y avait bien The Monument Man de George Clooney, mais je ne sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que ce n'est pas le plus réussi des films de George Clooney. Côté français, on avait bien La Vie de Château de Jean-Paul Rapneau, mais si le film est drôle, je ne suis pas sûr qu'il soit très nuancé. Côté allemand, on a l'excellent film de sous-marin Das Boot, mais il se pourrait bien que je me le garde sous le coude pour une autre fois. De toute façon, la liste est encore longue, avec les américains Il faut sauver le soldat Ryan ou plus récemment Fury, il y a énormément de choses à explorer et il fallait que je me limite à 4. Alors prenez place à bord de mon véhicule de fortune, on va aller à la rencontre de la résistance, puis on fera un long détour du côté du cinéma sous l'occupation, pour ensuite découvrir la collaboration en Hollande et terminer par le portrait d'un véritable fou furieux américain qui a changé le cours de l'histoire. Un homme de trop de Costa Gavras, durée 1h50. Un groupe de résistants libère 12 condamnés à mort et les ramène dans le maquis. Une fois sur place, ils se rendent compte que les hommes sont en fait 13. Que faire de cet homme de plus? Qui est-il? Représente-t-il un danger? Des interrogations auxquelles viendront se mêler le quotidien de la guerre menée contre l'occupant et les collaborateurs du régime de Vichy. Alors je vais mettre le temps, mais je crois bien que je vais vous conseiller petit à petit tous les films de la première partie de carrière de Costa Gavras. J'avais déjà survolé la question dans l'épisode 14 où j'avais présenté son autobiographie fantastique intitulée « Va là où il est impossible d'aller » et dans l'épisode 12 de la saison 1 de Cinécure où j'avais terminé en déplorant l'absence de la plupart de ses films sur les plateformes. Mais impossible n'est pas français, je vous le rappelle. Je vous parlais de nuances en exergue de cet épisode, et s'il y a bien un film qui en introduit une, c'est celui-ci. Deuxième film de Costa Gavras, 22 ans après l'armistice, adapté du roman autobiographique de Jean-Pierre Chabrol, on est loin de la glorification que l'on faisait de la résistance, et surtout de l'idée que le cinéma français répandait qui voulait que la France entière eût été résistante. Gavras présente des personnages antipathiques, courageux certes, mais pas téméraires, et surtout un collectif en proie au doute, au désaccord et à une très très grande hiérarchisation des tâches. Servi par un casting absolument stellaire, le film nous présente un dilemme simple. Comment doit se comporter la résistance française? Doit-elle faire preuve d'exemplarité? Ou est-ce que la fin justifie les moyens? En plus d'introduire cette interrogation déjà insupportable pour un bon nombre de Français, Gavras a l'outrecuidance de présenter la résistance non pas comme un collectif de héros plus irréprochables les uns que les autres, mais plutôt comme un amas de personnalités, avec ses leaders et ses suiveurs, mais aussi, et je dirais surtout, avec un ensemble d'influences dont toutes ne sont pas glorieuses. Doute, obéissance aveugle, mésentente, désorganisation, C'est tout le cœur de ce film qui semble nous dire, sans jamais le faire, que la résistance n'était pas moins qu'une organisation militaire. Certes, avec moins de moyens que l'armée, mais militaire tout de même, avec des gradés qui donnent des ordres et des soldats pour les exécuter.
Tirez pas !
Précisément. Pas devant les hommes, bon Dieu.
Tirez pas, c'est moi !
Continuez, c'était une erreur. Approche !
Tu tires toujours aussi mal. Ils vous respecteront jamais si vous faites ça.
Il est venu voir ce qu'on fait.
Monsieur Cazal !
Faites attention, vous allez déterrer les câbles.
Monsieur Cazal !
Oui ?
Philippe est très mal, il veut vous voir.
Bon, je viens.
Tu vois pourquoi il est venu ?
Parce qu'il a tout vu. Quand vous aurez fini, faites creuser un trou sous les arbres.
Un ou deux, il a tout vu.
Un, pour le milicien. On réglera ça ce soir.
On n'attend pas l'aube, il va faire nuit.
À quoi bon avec sa blessure, un peu plus tôt, un peu plus tard ?
Si le film a tellement dérangé, je pense que c'est surtout parce qu'il renvoie dos à dos les résistants et les autres acteurs du conflit quand l'histoire en général, mais surtout la France en particulier, préfère généralement en faire une sorte de caste détachée du monde qui l'a pourtant enfanté, composée d'êtres lumineux qui avaient un vrai sens patriotique chevillé au corps et la droiture comme seule ligne de conduite. Gavras nous présente des hommes, ni plus ni moins, fatigués, sous-armés, en général avec du matériel vétuste et sans grande expérience du combat. Des hommes qui n'ont pas toujours bien conscience de ce qu'ils risquent, mais surtout qui doivent exécuter des ordres aveuglément, même si ces ordres semblent contradictoires. Mais il le fait sans jeter tout le monde dans le même sac et surtout sans jamais juger ses personnages. Il faut dire qu'il avait à disposition un groupe d'acteurs absolument incroyable, je l'ai déjà dit, jugez plutôt, Charles Vanel, Bruno Kremer, Jean-Claude Brialy, Claude Brasseur, Jacques Perrin, François Perrier, Pierre Clémenti et bien sûr Michel Piccoli, plus insaisissable que jamais, dans ce rôle flou et à sa mesure. À seulement 34 ans, le plus grec des réalisateurs français s'offre le bide qui a bien failli lui coûter sa carrière et qui pourtant, il me semble à moi, mérite d'être vu et revu pour bien comprendre ce qu'a dû être la résistance, la vraie. Si vous aimez les réalités déplaisantes, les situations inextricables et justement les propos nuancés, alors Un homme de trop vous plaira. Il est disponible en streaming sur Canal+. En 1967, on pouvait voir dans les salles obscures françaises Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, Les 12 salopards de Robert Aldrich et Belle de jour de Luis Buñuel. Laissez-passer de Bertrand Tavernier, durée 2h50. Pendant l'occupation, Jean de Vèvre est un assistant réalisateur sérieux et travailleur qui ne rechigne pas à commettre quelques actes de résistance quand le contexte l'exige. Il travaille aux côtés des plus grands, mais se refuse à rejoindre la Continental, la société allemande qui produit des films français. De son côté, Jean Oranche est un scénariste amoureux de plusieurs femmes. Lui aussi se refuse à rejoindre la société dirigée par Greven, un Allemand profiteur et qui use de la menace et de l'intimidation pour obtenir ce qu'il veut. Bientôt, les deux hommes vont recevoir une proposition qui va les amener à devoir se questionner sur leurs valeurs et leur capacité à outrepasser leurs limites. Bon, je ne vous présente plus Bertrand Tavernier, c'est la troisième fois que je recommande un de ses films ici, et je ne vais pas vous faire l'insulte de vous répéter à quel point il a été et continue d'être important pour le cinéma français, parce que vous le savez déjà. La raison pour laquelle je parle une fois de plus de l'un de ses films, c'est que je ne pouvais pas parler de cette période trouble et étrange, que je trouve fascinante et qui me passionne, sans aborder un film qui parle du cinéma durant cette période. On l'oublie, mais le cinéma pendant l'occupation, c'était encore du cinéma, mais produit avec des contraintes incroyables et des moyens réduits à peau de chagrin. Et pourtant, s'il y a eu énormément de films tout à fait oubliables, il y a aussi eu quelques chefs-d'œuvre. Je pense au Corbeau d'Henri-Georges Clouzot, bien entendu, mais aussi aux Inconnus dans la maison d'Henri Decoing, pour ne citer que ces deux-là. Il en sera question, mais pas que, puisque Tavernier va se payer le luxe de visiter la fabrication de plusieurs films en suivant la vie des deux hommes, leur turpitude, leurs craintes et surtout la pression à laquelle ils étaient soumis par Greven et son équipe d'aboyeurs. Il y a quelque chose qui relève de l'éducatif, sans pourtant que la forme ne soit jamais sacrifiée, on est tout de même chez Tavernier, hein, et je dirais même que tout cinéphile français devrait voir ce film. C'est une déclaration d'amour au cinéma, comme seul Tavernier et les acharnés dans son genre sont capables d'en faire, ainsi qu'une étude de la complexité des sentiments humains par temps de guerre.
C'est une mauvaise idée. Ça va faire Musée Grévin.
Pas du tout, tu vas voir.
Ça tue le mystère. C'est une main qu'on doit imaginer.
Ah bah attends, si ça va pas, on la coupe au montage.
La mimine, elle va faire la rue Michel, mes enfants.
Ouais, on verra ça, on verra. En tout cas, merci pour mon texte.
Quoi, ton texte, toi?
Bah, l'avoir défendu contre celui de Clouseau. Merci.
Ah, ça c'est parce qu'il est plus court.
Au casting, Jacques Gamblin et Denis Podalydès, impeccables comme toujours, ils interprètent les personnages que Jean Devèvre lui-même avait convoqués dans son bouquin autobiographique, que Tavernier a choisi d'adapter avec Jean Cosmos, collaborateur régulier du réalisateur, mais pas que, puisqu'on le retrouve aussi sur des productions comme Le Bossu, le remake de Philippe de Broca avec Auteuil, Effroyable Jardin de Jean Becker, ou encore Agent Secret de Frédéric Schoendorfer. Mais là où le film est un succès, c'est dans sa photographie, assurée par Alain Chocard, qui avait déjà collaboré avec Tavernier sur Capitaine Conade, et qui n'a pas fait grand-chose d'autre de mémorable, à part peut-être Le Prix du Danger d'Yves Boisset, qui est un de mes favoris, mais c'est personnel. Et puis bien sûr, il y a les décors d'Émile Guigaud, lui aussi pas très connu, et qui pourtant retranscrit à merveille l'ambiance des tournages sur des plateaux pauvres à en mourir, contraints de tout détruire à peine la prise en boîte pour tout reconstruire illico presto pour la scène suivante. C'est cette ambiance-là que Tavernier retranscrit à merveille, parce que c'est cette urgence que lui-même connaît, celle de raconter des histoires. Cette passion qui a amené les personnages à parfois mettre un peu d'eau dans leur vin, ou au contraire à tenir bon face à l'envahisseur, quitte parfois à faire une croix sur ce qui les animait vraiment. Encore une fois, de la nuance et de la bienveillance. Si vous êtes vraiment passionné de cinéma et qu'en plus vous vous intéressez à la période de l'occupation, vous ne pouvez pas ne pas voir Laissez-Passer. Il est disponible sur Filmo TV pour la somme de 2,99€. En 2002, en France, on pouvait aller voir au cinéma Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, Ocean's Eleven de Steven Soderbergh et Hable con ella de Pedro Almodóvar. Sword Book, titre utilisé en France Black Book de Paul Verhoeven, durée 2h25. Rachel Stein, une juive hollandaise sanguine et culottée, vit cachée pendant l'occupation jusqu'à ce que sa planque soit détruite par accident. Commence alors pour elle une cavale pendant laquelle elle rejoint la résistance et infiltre en même temps le siège de la Gestapo ayant pour mission de séduire le chef du service. Le jeu auquel elle joue pourrait s'avérer plus dangereux qu'elle ne l'imaginait à l'heure des choix. Les plus assidus d'entre vous se souviendront que j'avais conseillé ce film lorsque je faisais les épisodes bis de Cinécure sur Instagram. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais je ne peux pas vraiment passer à côté de l'occasion de 1. Vous parler de ce film et 2. Bien sûr, de vous parler de Paul Verhoeven. Le seul adjectif qui me vient à l'esprit quand je pense à lui, c'est équilibriste. C'est un cinéaste qui est toujours, et qui adore être, à la limite entre le subtil et le mauvais goût. On ne sait jamais où on va tomber, ni à quelle sauce on va être mangé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il prend un pied monumental à nous balader sur le fil du rasoir et à alterner l'horrible et le sublime, l'excitant et l'écœurant. Après un début de carrière prometteur en Hollande, il s'est délocalisé à Hollywood où il a trouvé un système à sa mesure, mais surtout un pays, une culture, qu'il a pris plaisir à tordre, à railler et à pervertir. Je ne vais pas revenir sur les succès des uns et des autres films, mais après une belle exploration de ce pays, et malheureusement victime de l'insuccès de 3 films à la suite, Showgirls, Starship Troopers justement et Hollow Man, le réalisateur marque une pause et rentre à la maison pour produire Black Book donc. Et revenir sur la période de l'occupation allemande comme il l'avait fait avec l'un de ses tout premiers succès, Soldat van Oranje, sorti en 1977. Fidèle à lui-même et à ses collaborateurs, il renoue avec Gerhard Soutman, avec qui il avait écrit ce film donc, mais aussi Spetters et Flesh and Blood, et nous propose donc sa vision de l'occupation en s'intéressant de plus près à un personnage féminin, juif, et qui va devoir jouer de tous ses atouts pour survivre. Bien entendu, quand je dis tous ses atouts, je veux parler notamment, mais pas que, de sexualité, un thème récurrent chez Verhoeven, et qui est toujours traité très frontalement. Concrètement, Verhoeven s'intéresse à ces femmes qui ont couché avec des Allemands et que l'on a rasées à la Libération. Plus nuancé que ces films américains à mon goût, celui-ci n'en est pas moins violent dans ses actions, mais surtout dans son propos, puisqu'on accompagne un personnage qui est contraint de naviguer en eau trouble et qui pourrait presque y perdre sa conscience et son intégrité. Carice Van Houten, qui interprète le personnage principal, est à ce titre incroyable, à la fois séduisante et létale, elle n'en est pas moins terrifiée et perdue par ce qu'elle traverse. Ce que Verhoeven lui fait vivre est bien entendu abject, mais nécessaire. Au contact de personnages tantôt grotesques, tantôt touchants, elle va découvrir, souvent à ses dépens, que la guerre est une affaire tristement humaine et que les concepts de gentil et méchant n'ont pas vraiment cours quand les intérêts nationaux s'entrechoquent.
Ich bin die fesche Lola,
der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Lola, 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 Lola. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Und wer mich will begleiten, da unten aus dem Saal, dem hau ich in die Seite und trete ihm aufs Pedal.
Dans un film que Spielberg ne renierait pas s'il n'était pas parfois aussi crasse, Verhoeven rentre à la maison et nous donne à voir ce qui est probablement la vision la plus juste de cette époque-là, c'est-à-dire le quotidien de quelqu'un qui ne veut pas, qui ne peut pas et qui ne doit pas mourir et qui est prêt à tout pour rester en vie, même à admettre qu'il y a des gens bien de chaque côté du conflit. Si vous aimez les personnages prêts à tout pour arriver à leur fin, si vous aimez les infiltrations et les agents doubles, et si vous n'avez rien contre les propos corrosifs sur l'héroïsme, alors Svart Book, intitulé judicieusement Black Book en France, est fait pour vous. Il est disponible sur Canal+, en streaming. En 2006, en France, on pouvait voir Prête-moi ta main d'Eric Lartigo, The Departed de Martin Scorsese et Munich de Steven Spielberg. Patton de Franklin J. Schaffner, durée 2h52. Patton, un général total, stratège militaire très à cheval sur la discipline et la politique de la terre brûlée, est envoyé en Afrique du Nord, puis en Sicile, pour libérer les territoires du joug fasciste. Désireux de participer à la bataille de Normandie, il fait face à son plus gros ennemi jusqu'alors, lui-même. Je vous demande pardon parce que ça fait beaucoup de films très longs ce mois-ci, mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si la Seconde Guerre mondiale a enfanté des films dont la complexité réclame des durées inhabituelles. Sincèrement, il est même surprenant qu'on ait réussi à faire entrer un tel personnage dans un long métrage, peu importe sa durée. Je triche un peu en incluant ce film dans ma liste de films sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en réalité, l'histoire, en partie écrite par Francis Ford Coppola, qui s'est fait virer mais a finalement été crédité, raconte surtout le vieillissement d'un général qui va peu à peu perdre pied avec le nouveau monde qui se dessine. C'est un film qui est fidèle à ce que ce général a été, mais qui est aussi un commentaire très ancré dans les années 70, au moment où les États-Unis s'embourbent depuis près de 15 ans au Vietnam avec une guerre qu'ils ne comprennent pas et qu'ils finiront d'ailleurs par perdre. Patton est donc une image idéale dans laquelle les conservateurs verront un homme comme on n'en fait plus et les libéraux un fasciste dont il ne vaudrait mieux plus parler. La réalité, c'est que l'homme en question était un personnage plus large que la vie elle-même, comme le disent les Américains, et que le général était, selon toute vraisemblance, un personnage à part. Convaincu d'avoir vécu 6 vies dans lesquelles il était à chaque fois soldat et dont il racontait parfois des passages, notamment une où il aurait été aux côtés de Napoléon, il a marqué de son empreinte non seulement la stratégie militaire globale, mais aussi le débarquement qui a mené à la défaite des nazis. D'abord au Maroc, puis en Tunisie, pour ensuite aller en Sicile. Il participera à son corps défendant à la vaste opération de désinformation destinée à semer le trouble quant au débarquement, et finira par participer à la bataille de Normandie et percer le front allemand jusqu'en Lorraine où il devra attendre les alliés. C'est tout cela que le long métrage tente de restituer, si tant est que cela soit possible. Tout cela et bien plus encore en mettant en scène un George C. Scott qui est décidément un acteur hors norme et qui gagnera l'Oscar pour ce rôle. Oscar qu'il refusera d'aller récupérer en qualifiant la compétition entre acteurs de ridicule.
You want to see me, General?
Oh, yes, Chaplain. I'm sick and tired of Third Army having to fight the Germans. The Supreme Command, no gasoline. And now this ungodly weather. I want a prayer, a weather prayer.
Weather prayer, sir?
Yes, let's see if you can't get God working with us in this thing.
Gonna take a pretty thick rug for that kind of praying.
I don't care if it takes a flying carpet.
No, I don't know how this is gonna be received, General. Praying for good weather so we can kill our fellow man.
Well, I can assure you, sir, because of my intimate relations with the Almighty, if you write a good prayer, we'll have good weather. I expect that prayer within an hour.
Yes, sir.
Du côté de la réalisation, on retrouve Franklin Schaffner, surtout connu à ce moment-là pour La planète des singes, et qui signera aussi Papillon. Patton lui vaudra, à lui aussi, l'Oscar du meilleur film et celui de la meilleure réalisation. Il est accompagné à la musique par l'immense Jerry Goldsmith, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 3 de la saison en cours de Cinécure pour Seconds de Frankenheimer. Le compositeur se basera sur les vies antérieures que Patton commente pour écrire un thème qui a en son centre l'écho de ses vies sur le général. Si vous aimez les personnalités hors du commun, les films de guerre à l'ancienne et les sous-textes, alors Patton est fait pour vous et il est disponible sur Disney+. En 1970, en France, on pouvait découvrir Borsalino de Jacques Deray, MASH de Robert Altman et Les Damnés de Luchino Visconti. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. S'il vous a plu, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à le noter 5 étoiles si la plateforme sur laquelle vous l'écoutez le permet. C'est la meilleure manière d'aider le podcast. Je vous rappelle que tous les films conseillés ici sont publiés sur une liste Letterboxd que je vous mets en lien dans la description de l'épisode. Cinécure est un podcast créé, produit et réalisé par moi, Charles-Edouard Wasselin, pour Vaisseau Hyper Sans Sas. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les membres du vaisseau pour leur patience et leur bienveillance. Vous pouvez aussi me retrouver sur le Discord du vaisseau avec un channel entièrement dédié à Cinécure, où nous parlons des films traités ici, mais aussi de plein d'autres films. N'hésitez pas à nous rejoindre. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, où je suis en tant que Charles Eddy, ou bien sur YouTube, où vous trouverez une chaîne appelée Cinécure. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous sur la chaîne YouTube très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !